En quoi la crise actuelle autour de la robotisation renvoie plus largement au problème des jobs à la con? Puritanisme. La crainte obsédante que quelqu'un, quelque part, puisse être heureux. H.L. Mencken. Voilà donc la situation désastreuse dans laquelle se trouvent les pays riches, dominés par un climat politique fait d'un enchevêtrement de mécontentement. Dans ce contexte, reposer la question qui caractérise traditionnellement la pensée de gauche paraît plus pertinent que jamais. Chaque matin, en nous levant, nous fabriquons collectivement un monde. Pourtant, lequel d'entre nous, s'il ne tenait qu'à lui, choisirait de fabriquer le monde que nous avons? À bien des égards, les fantasmes décrits dans les romans de science-fiction du début du XXe siècle sont à notre portée aujourd'hui. D'accord, on ne peut pas encore se téléporter ni aller coloniser la planète Mars. Mais matériellement, il ne serait pas si compliqué de réorganiser les choses de manière à ce que la majeure partie des habitants de la planète puissent vivre dans une aisance et un confort relatifs. Bien que les révolutions scientifiques et les découvertes technologiques s'enchaînent à un rythme moins trépidant que celui auquel nous avait habitué la période 1750-1950, la robotique poursuit sa marche en avant, essentiellement perfectionnant les applications de techniques existantes. Couplée au progrès des sciences des matériaux, elle annonce une ère où les opérations mécaniques les plus ennuyeuses et les plus pénibles pourront être supprimées. La conséquence, c'est que le travail sera de moins en moins productif dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, et s'apparentera de plus en plus à du soin, toutes ces tâches que la plupart d'entre nous ne sont pas disposés à confier à des machines. Ces dernières années, les périls de la mécanisation ont alimenté un flot ininterrompu d'ouvrages alarmistes. La majorité d'entre eux s'inscrivent dans la lignée du « pianiste déchaîné », le tout premier roman de Kurt Vonnegut publié en 1952. Celui-ci nous annonçait une société qui, après l'élimination quasi totale du travail manuel, allait se scinder en deux classes. D'un côté, une élite fortunée, propriétaire des robots, dont elle assurerait aussi la conception. De l'autre, les anciens ouvriers, éreintés et éplorés, qui passeraient leur journée à jouer au billard et à se saouler parce qu'ils n'auraient rien de mieux à faire. Les représentants de la classe moyenne se répartiraient entre les deux. Non seulement cette vision passait complètement à côté de la dimension de soin que comporte le travail réel, mais elle postulait des relations de propriétés immuables et surtout des êtres humains si peu imaginatifs qu'ils seraient incapables de trouver quoi que ce soit d'intéressant à faire de leur temps libre désormais illimité, à part sans doute les écrivains de science-fiction. La contre-culture des années 1960 a contesté les deux dernières hypothèses, c'est moins vrai de la première, de nombreux révolutionnaires s'étant emparés du slogan « Faites bosser les machines ». En retour, un sursaut moralisateur similaire à celui que nous avons évoqué au chapitre précédent a réaffirmé le travail comme une valeur en soi, cependant que des milliers d'emplois d'usines étaient délocalisés vers des pays pauvres, à bas coût de main-d'œuvre, de sorte que le boulot restait effectué par des humains. Dans le sillage de ce retour de bâton réactionnaire, les années 1970 et 1980 virent déferler la première vague de féodalité managériale, accompagné d'une bullshitisation intense du monde du travail. Les derniers développements de la robotisation ont engendré les mêmes crises de panique morale que ceux de la décennie 1960, à une différence près. Étant donné que toute remise en cause profonde des modèles économiques, sans parler des régimes de propriété, est devenue inconcevable, l'automatisation ne paraît pouvoir entraîner qu'une plus grande concentration de richesses et de puissance entre les mains du 1%. Dans son récent ouvrage « L'avènement des machines », Martin Ford décrit la façon dont la Silicon Valley, après avoir éliminé la majorité des emplois ouvriers, est en train de s'attaquer au système de santé, à l'éducation et aux professions libérales. Selon lui, un régime de techno-féodalisme nous guette. En privant les ouvriers de leur travail, ou en les paupérisant par l'instauration d'une compétition forcée avec les machines, nous nous exposons à de graves problèmes, à commencer par celui-ci. Si plus personne ne touche de salaire, qui va pouvoir se payer les gadgets rutilants et les services ultra-sophistiqués que proposeront les robots? Ce résumé est peut-être cruellement simplificateur, mais il permet de mettre en lumière ce qui, à mon sens, pêche dans tous ces récits. Les scénarios d'un remplacement des humains par les robots ne vont jamais assez loin. Les futurologues n'ont aucun mal à imaginer des machines à la place des rédacteurs sportifs, des sociologues ou des agents immobiliers. Pourquoi n'en imaginent-ils pas à la place des capitalistes? Après tout, ces derniers ne font guère que déterminer le mode optimal d'investissement des ressources permettant de satisfaire une demande de consommation présente ou éventuellement future. Les piètres performances de l'économie soviétique étaient probablement dues au fait qu'il n'existait pas de technologie informatique capable de brasser et de gérer d'énormes masses de données de façon autonome. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus facile. Pourtant, personne n'ose suggérer une telle idée. Ainsi, dans la célèbre étude où il classe 702 professions différentes selon leurs chances d'être remplacées par des machines, l'ingénieur Michael Osborne et l'économiste Carl Frey mentionnent les hydrologues, les maquilleurs ou encore les guides accompagnateurs, mais n'envisagent jamais la possibilité d'avoir des automates entrepreneurs, investisseurs ou experts financiers. Les télévendeurs, numéro 702 dans le classement, sont ceux qui ont le plus de chances d'être remplacés par des robots. Les praticiens de la thérapie récréative, numéro 1, sont ceux qui en ont le moins. Les anthropologues sont relativement à l'abri, au 32e rang. Me détournant de Vonnegut, j'ai décidé d'aller chercher l'inspiration chez un autre auteur de science-fiction, Stanislas Lem. Son voyageur de l'espace, Ivan Tichy, raconte une expédition sur la planète habitée par les Indios, un jeu de mots assez peu subtil, il faut le reconnaître. Au moment de sa visite, cette population traverse une classique crise marxiste de surproduction. Un aimable autochtone, après avoir décrit l'organisation historique de la société en esprit, prêtre, éminent, aristocrate et boulonnier, ouvrier, explique à Tichy: pendant des siècles, les inventeurs ont construit des machines facilitant le travail. Ainsi, là où, dans l'Antiquité, 100 boulonniers en sueur ployaient les chines, au bout de quelques siècles, seuls quelques-uns se tenaient auprès des machines. Nos savants avaient perfectionné de plus en plus les machines et le peuple s'en réjouissait. Mais les événements qui se préparaient montrèrent cruellement combien cette joie était hors de propos. De fait, les usines commencèrent à devenir un peu trop performantes, jusqu'au jour où un ingénieur inventa des machines capables de fonctionner sans aucune supervision. Stanislas Lem écrit: au fur et à mesure que dans les fabriques apparaissaient les nouvelles machines, les boulonniers, par milliers, perdaient leur travail et, ne touchant plus de salaire, n'avaient comme perspective que d'être condamnés à mourir de faim. « Pardon, Indio, » demandai-je. « Que devenaient les revenus qu'apportaient les fabriques ?»« Comment ça ?» repartit mon interlocuteur. « Le revenu revenait aux propriétaires légitimes, aux éminents. Donc, comme je te disais, la menace de mort se mit à planer. »« Mais que dis-tu là, digne Indio ?» m'écriai-je. « Il suffisait de faire des usines la propriété commune pour que les nouvelles machines se transformassent pour vous en bénédiction. » À peine m'étais-je exprimé de la sorte que l'Indio se mit à trembler, tandis que ses 10 yeux clignaient de frayeur et que ses oreilles se redressaient pour déceler si aucun de ses compagnons qui rôdaient autour des marches n'avait entendu mes paroles. « Parlez d'Iné, d'Inda, je t'en conjure, voyageur venu d'ailleurs, ne profère pas d'hérésies aussi effroyables qui ne sont rien d'autre qu'une vile atteinte aux principes de base de nos libertés. Sais-tu que notre loi suprême, appelée le principe de la libre initiative civique, proclame que nul ne peut être contraint, forcé ou même enclin à faire quelque chose s'il ne le souhaite pas? Alors qui aurait pu oser priver les éminents de leur fabrique du moment que leur volonté était de se complaire dans leur état de possession? Cela aurait été la plus effroyable violation de la volonté que l'on pût imaginer. Donc, ainsi que je te l'ai déjà dit, les nouvelles machines produisaient des masses de marchandises extrêmement bon marché et de l'excellente nourriture. Mais les boulonniers n'achetaient absolument rien parce qu'ils n'avaient pas de quoi. Bientôt, les boulonniers, pourtant libres de faire tout ce qu'ils voulaient, pourvu qu'ils n'enfreignent les droits de propriété de personne, insistait l'interlocuteur de Tichy, se mirent à tomber comme des mouches. Il s'ensuivit des débats passionnés ainsi qu'une succession de demi-mesures ratées. Pour compenser cette brusque pénurie de consommateurs, le Conseil suprême des Indios, le Haut Crétinal, entreprit de créer des robots capables d'absorber et d'utiliser ce que produisaient les nouvelles machines avec beaucoup plus d'ardeur que n'importe quel être vivant, et tout en matérialisant l'argent nécessaire à ces acquisitions. Mais les Indios n'étaient toujours pas satisfaits. Réalisant l'absurdité d'un système dans lequel les machines assuraient à la fois la production et la consommation, ils trouvèrent une meilleure solution. Tous les habitants allaient se rendre dans les usines, sur la base du volontariat naturellement, pour y être transformés en magnifiques disques étincelants, désormais disposés harmonieusement dans le paysage. Cela peut paraître lourdeau, mais parfois, une pincée de marxisme brut de décoffrage ne fait pas de mal. Lem a raison. Que l'élimination des corvées soit considérée comme un problème est bien le signe infaillible qu'on se trouve dans un système économique aberrant. Dans l'univers de Star Trek, le problème était résolu grâce à des réplicateurs. Au Royaume-Uni, à l'extrême gauche du spectre politique, on rencontre des défenseurs du communisme de luxe entièrement automatisé, Fully Automated Luxury Communism, FALC, ce qui n'est guère différent. De toute façon, de même qu'une culture nationale appartient à tous parce qu'elle est créée par tous, il semblerait logique que les futurs robots et réplicateurs soient la propriété commune de l'humanité, puisqu'ils seront le fruit de plusieurs siècles d'ingénierie mécanique collective. Des usines publiques automatisées faciliteraient la vie de tout le monde, mais elles n'élimineraient pas pour autant le besoin de boulonniers. La nouvelle de Stanislas Lem, à l'instar de beaucoup d'autres récits, assimile encore le travail au travail en usine, ou en tout cas au travail productif, négligeant de voir en quoi consiste réellement la plupart des emplois ouvriers. Par exemple, le fait que les guichetiers du métro londonien s'occupent aussi de retrouver les enfants égarés et d'empêcher les ivrognes de faire du grabuge. Non seulement nous ne sommes pas prêts d'inventer des robots capables de faire tout ça, mais même s'ils existaient, qui a vraiment envie de voir automatiser de telles missions? Les progrès de la robotisation devraient donc faire apparaître avec encore plus d'évidence que la vraie valeur du travail réside dans sa dimension de soins. Or, cela soulève un nouveau problème. Cette dimension est impossible à quantifier. Je crois que notre prétention à quantifier l'inquantifiable est directement responsable de l'extension de la sphère des jobs à la con et de la bullshitisation des vrais emplois. En un mot commençant, l'automatisation permet peut-être d'optimiser certaines tâches, mais il en est beaucoup d'autres qu'elle rend au contraire moins efficaces. Pourquoi? Parce qu'il faut des heures et des heures de travail humain pour traduire les notions abstraites associées à une action de soins, procédure à suivre, opération requise, résultat attendu, dans un langage reconnaissable informatiquement. Aujourd'hui, on fabrique des machines capables, sans aucune intervention humaine, d'identifier et de trier dans une pile de fruits frais ceux qui ne sont pas encore mûrs, ceux qui sont à point et ceux qui sont pourris. C'est une très bonne chose, vu que trier des fruits, au-delà d'une heure ou deux, c'est barbant. En revanche, on ne sait pas créer un robot qui sache entièrement seul parcourir les recommandations de lecture d'une dizaine de cours d'histoire pour décider quel est le meilleur d'entre eux. Remarquez, ce n'est pas vraiment un mal non plus, car c'est intéressant à faire, ou du moins, il n'est pas difficile de trouver des gens qui s'en chargeraient volontiers. on construit des trieuses de fruits automatiques parce qu'elles nous libèrent d'une corvée et nous laissent du temps pour méditer sur des questions inquantifiables, choisir un cours d'histoire, établir notre panthéon personnel des guitaristes de funk, réfléchir à la couleur dont on aimerait teindre ses cheveux. Mais admettons que l'on décide de faire comme si un ordinateur était capable de choisir pour nous le meilleur cours d'histoire, quel qu'en soit le motif. Disons parce que, pour faciliter l'attribution de financement, on souhaite instaurer des normes de qualité chiffrées et standardisées applicables à toutes les universités. On va vite se rendre compte que la machine ne peut pas opérer seule. C'est là que se cache l'embrouille. Les fruits, c'est facile. Il suffit de les faire rouler vers la poubelle. Dans le cas des cours d'histoire, en revanche, un effort humain considérable est nécessaire pour transformer le matériau de base en unité que l'ordinateur saura traiter. Et on ne parle même pas de les interpréter. L'exemple suivant donne une petite idée des conséquences que peut avoir ce genre d'opération. Il s'agit de comparer les actions requises pour créer un sujet d'examen et mettre en ligne un programme de cours dans deux institutions différentes. L'Université de Queensland, en Australie, une université moderne de management où tous les supports de cours doivent respecter un format standard, et un département universitaire traditionnel. Dans une université traditionnelle, pour la création d'un programme de cours, les assistants ont seulement à demander au personnel universitaire l'insertion du règlement de l'université concernant l'enregistrement des cours magistraux. Dans une université de management, les allers-retours sont beaucoup plus nombreux, incluent le personnel universitaire, les assistants, mais aussi l'administrateur de l'université, instance de validation. Pour la création d'un sujet d'examen, le processus est encore plus complexe, faisant également appel aux responsables financiers et au bureau central des examens, entraînant jusqu'à 12 interactions contre 2 dans une université traditionnelle. J'insiste sur un point. Chacune de ces interactions, demande de descriptif du sujet d'examen pour la page de garde, réponse, avis de création d'un sujet d'examen, avis de changement de mise en forme, notification du responsable financier, etc., représente une action effectuée non pas par un ordinateur, mais par un être humain.